Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il se désendetter à tout prix ? C'est le débat économique du moment, le débat économique des années qui viennent. Selon Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, comment gérer, comment utiliser la dette publique ? Cette question, c'est le thème d'une grande réunion, aujourd'hui et demain à Paris, un forum mondial organisé par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est aussi et surtout un sujet qui ne cesse de revenir dans l'actualité. En France, dès qu'on parle d'une mesure prise ou évoquée par l'exécutif, on l'a encore vu la semaine dernière avec ce que devait annoncer Emmanuel Macron, est-ce que tout cela ne va pas encore creuser la dette, se demandait-on. La dette qui revient aussi désormais dans le débat de chaque campagne électorale, particulièrement depuis 2008 et la crise financière, depuis que cette dette a nettement augmenté pour atteindre désormais près de 100% du produit intérieur brut. À l'étranger aussi, c'est un sujet de débat, parfois vif et même violent. On l'a vu en Grèce ces dernières années, en Italie aujourd'hui, aux États-Unis aussi, où l'endettement public a considérablement augmenté, plus 77% en un an. De plus en plus de dettes donc, faut-il s'en inquiéter ? Là, les avis divergent. La dette est perçue comme un fardeau dont il faut se délester pour des raisons économiques et même morales parfois. En allemand, dette se dit Schuld, qui signifie aussi faute et culpabilité. Mais la dette est aussi vue comme un atout nécessaire à l'investissement et au développement des sociétés, d'où cette question. Faut-il se désendetter à tout prix ? C'est le sujet du Grain à Moudre ce soir. Pour en débattre, trois invités. Mathieu Plane, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous avez aussi été le conseiller d'Arnaud Montebourg quand il était ministre du redressement productif. Avec vous, un autre économiste au téléphone, François Meunier, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Santiago, au Chili, merci beaucoup. Vous êtes professeur associé de finance à l'ENSA et Paritech, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, ancien directeur général de la société d'assurance crédit, COFAS. Patrice Bobo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense. Vous travaillez sur l'histoire comparée des banques centrales, des systèmes financiers et de la monnaie. Vous avez participé à l'ouvrage Une histoire de la dette publique en France, ouvrage collectif sous la direction de Michel Lutfala, un livre publié aux éditions Classique Garnier. Votre regard d'historien sera particulièrement intéressant dans ce débat. Avant de parler de la situation d'aujourd'hui, avant aussi d'évoquer l'avenir, revenons quelques mois, quelques années en arrière pour tenter de bien comprendre ce qui se passe actuellement. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à une dette publique, je le disais, proche de 100% du PIB en France ? 98,4% précisément, c'était à la fin de l'an dernier selon l'INSEE. Mathieu Plane.
Alors c'est important hein, de rappeler effectivement qu'il y a une histoire hein, sur la dette publique. Je pense que on est bien entouré pour en parler. Il y a eu clairement un tournant à partir de 2007-2008 hein, avec la crise financière, puis crise économique hein, qui a entraîné de façon assez mécanique dans tous les pays une augmentation assez nette à la fois des dépenses publiques parce qu'il y a eu plus de chômage, etc. Mais surtout un manque à gagner sur les côtés des recettes fiscales. C'est-à-dire que du coup, on a eu quand même une montée très forte des déficits publics. Forcément, moins d'activité, c'est moins de cotisations sociales, c'est moins d'impôts sur les sociétés, sur le revenu. Et on l'a vu ça un peu partout. Et donc, ces déficits se sont traduits par une augmentation forte de la dette. Donc, en fait, à peu près partout dans le monde, on a vu une forte augmentation de la dette, de 30 à 50 points de PIB, hein, ce qui est fort. Il y a que l'Allemagne qui fait figure à peu près d'exception là-dedans. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est pas tellement finalement le niveau de la dette, parce qu'aujourd'hui, on en reparlera, mais le coût de la dette est relativement bas. C'est plutôt que c'est une forme de dette blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie à cette dette, si ce n'est d'avoir sauvé un système économique et financier, mais c'est pas lié à plus d'investissements. Et là, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des raisonnements comme ça, c'est de voir quelle est la contrepartie à cette dette. Et là, ça a été plutôt un amortisseur de crise.
François Meunier, est-ce qu'il était possible de faire autrement, compte tenu donc de ce que vient de rappeler Mathieu Plane, de cette crise financière et économique, est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Est-ce que les États pouvaient faire autrement que de s'endetter et emprunter ?
Non, et peut-être même n'ont-ils pas fait, en tout cas pour l'Europe, de mon point de vue, n'ont-ils pas fait assez. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu de façon conjointe une politique monétaire tout à fait accommodante, même extrêmement large, en même temps qu'une relance budgétaire forte. En Europe, ça a été le même mouvement, mais qui a été assez rapidement interrompu dès 2011, et avec probablement, c'est l'analyse de beaucoup, une pénalisation à la croissance européenne. Donc je dirais non, insuffisamment probablement.
Avant de donner la parole à Patrice Bobo, encore un point avec vous, Mathieu Plane. L'État donc a emprunté, l'État français s'est endetté, pour faire quoi ? Pour financer quoi ?
Pour financer les déficits qui ont augmenté. Hein. En 2007, on était en dessous de 3% du PIB de déficit. En 2009, on est à plus de 7%. Et c'est pas lié à une gabegie d'un coup de finances publiques. C'est pas lié à une dépense publique incontrôlée. C'est vraiment lié à une récession mondiale, une crise économique forte, qui a nécessité un plan de relance, mais en face aussi des recettes qui ont fortement baissé. Et donc, il a fallu petit à petit réduire ses déficits. Alors, justement, il y a eu un désendettement à marche forcée qui a coûté assez cher en termes de croissance, dont les résultats finalement en termes de réduction de dette ont été assez faibles, par contre avec un impact très négatif sur la croissance et sur le marché du travail. Mais voilà, globalement, l'État a joué son rôle d'amortisseur en empruntant sur le marché parce que l'économie, le système privé ne fonctionnait pas ou fonctionnait mal.
Patrice Bobeau, est-ce qu'on a déjà vu ça en France, dans l'histoire de France, une dette publique qui a autant augmenté en aussi peu de temps ?
Alors, on a vu bien pire, en fait, notamment pendant les guerres, où la dette explose littéralement. C'est-à-dire qu'en France, on passe d'un niveau qui est l'ordre de 80-90% du PIB en 1913 à 250% en 1945, hein, avec des hauts et des bas très marqués entre les deux, liés à l'inflation, à la reconstruction, etc. Donc ça, c'est pas nouveau du tout. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'ont dit Mathieu Plane et François Meunier à l'instant, c'est ce phénomène de stabilisateur automatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si l'État ne fait pas ce qu'il a fait cette fois-là? Et là, on a des exemples historiques tout à fait parlants. Par exemple, après la guerre de 1870, l'État français n'est pas intervenu. Il est rentré dans une logique de réduction de la dette, qui était largement une dette externe. Hein, l'indemnité à payer à l'Allemagne, 25% du PIB imposé d'un seul coup. Et les résultats, ça a été une conjoncture très récessionniste. Et à quel État a mis fin après avec le plan Freycinet en 1978, c'est-à-dire que s'il n'est pas intervenu à ce moment-là, il a été obligé d'intervenir plus tard, en fait. Donc, il vaut mieux intervenir tout de suite.
L'État ne pouvait pas faire autrement, donc, François Meunier, que d'intervenir et d'emprunter pour stabiliser cette crise que vivait la France. Elle n'était pas le seul pays à vivre et à endurer cette crise.
Alors, la France a une situation particulière et pas forcément les finances publiques les mieux gérées structurellement. Peut-être y revenir. Là, en l'occurrence, c'était un mouvement européen. C'est-à-dire que la BCE, en 2011, a pris peur. Les gouvernements eux-mêmes ont un peu pris peur devant la montée forte de la dette et ont appuyé un peu vigoureusement sur le frein. Et c'est ça, vraisemblablement, qui a pénalisé et qui pénalise toujours la croissance européenne. Donc c'est vrai qu'il y a un effet de boucle. Ça n'est pas une demande à faire de la dette ou du financement public à tout va, mais il y a une forme de boucle par lequel, si on restreint trop, s'il y a trop d'austérité, c'est la croissance qui est pénalisée et donc la capacité demain à rembourser la dette.
On va y revenir à cette problématique et notamment concernant l'austérité. Une dernière question, Mathieu Plane, avant d'arriver à la situation actuelle. Est-ce qu'on sait qui sont les principaux créanciers de l'État français aujourd'hui?
Oui, on le sait. Il y a beaucoup d'institutionnels qui détiennent la dette.
C'est-à-dire des États étrangers?
Des États ou des assurances ou des banques étrangères. Mmh. Et puis en France, les ménages, c'est beaucoup par l'assurance vie. En réalité, ce qui est assez intéressant sur le concept de la dette, c'est que les intérêts que paye l'État, en fait, en face, on va dire, des ménages ou des institutionnels les reçoivent. Et donc, c'est vrai que quand la dette est détenue sur un territoire, les charges d'intérêt versées par l'État sont reçues en contrepartie par les ménages. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est aussi la contrepartie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas, la charge d'intérêt pour l'État est faible, mais le rendement pour les ménages ou les investisseurs, les particuliers sont très faibles, donc c'est la contrepartie.
L'endettement public aujourd'hui donc est en partie, on vient de le voir avec vous, la conséquence de la crise de 2008, une crise, vous n'allez peut-être pas me contredire, crise que peu de monde avait vu venir, en tout cas une crise d'une telle ampleur, une réalité et des souvenirs qui nourrissent quelques inquiétudes aujourd'hui chez les économistes et chez d'anciens dirigeants aussi, exemple avec Jean-Claude Trichet, l'ex-président de la Banque Centrale Européenne, il l'était notamment en 2008, lorsque la bulle a explosé. Oui, aujourd'hui, il est assez pessimiste.
Généralement, quand on a une crise absolument dramatique, elle est rarement préannoncée. Donc, la leçon que j'en tirerais pour le moment, si vous voulez, c'est d'être extrêmement vigilant, faire en sorte, aussi bien dans les pays avancés, y compris le nôtre, évidemment, que dans les pays émergents ou en développement, de faire très attention à ce niveau d'endettement continu, permanent, qui est très dangereux à terme.
Jean-Claude Trichet, donc, qui était en janvier au micro d'Europe 1, un niveau d'endettement très dangereux à terme, dit l'ancien gouverneur de la Banque de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Mathieu Plane?
Il y a toujours un risque, on peut pas l'écarter. C'est maintenant voir d'abord. Effectivement, le grand paradoxe actuel, c'est qu'on a des niveaux d'endettement qui sont très élevés, et en même temps, on voit que les investisseurs s'arrachent la dette, quoi, pour justement sécuriser leurs investissements. La macroéconomie, c'est compliqué, donc on peut pas dire, voilà, il y a beaucoup de... On a entendu, il y aurait des seuils comme quoi, si on dépassait ce niveau de dette publique, ça y est, la dette serait plus soutenable. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui peuvent s'endetter beaucoup, d'autres beaucoup moins. Ça dépend de risques macroéconomiques globaux aussi. C'est vrai que si on avait affaire à nouveau une crise financière comme celle de 2008, bah, l'État, finalement, devrait à nouveau intervenir. Et donc, si on prend 30 ou 40 points de PIB tous les 10 ans, effectivement, il y a un problème de soutenabilité qui va se poser. Pas seulement de la dette publique, mais du système économique dans son ensemble.
Quand vous parlez de seuil, Mathieu Plane, c'est le taux d'endettement des pays en fonction du PIB. Hein.
Exactement, parce qu'il y a eu une étude qui a fait polémique, parce qu'elle a été beaucoup suivie, ou en tout cas commentée, de Renard Terogoff, qui disait qu'effectivement, au-delà de 90% du PIB, le risque d'insolvabilité ou de soutenabilité de la dette était avéré. Sauf que effectivement la mécanique est beaucoup plus complexe que ça, que ça dépend dans quel type de monnaie vous êtes endetté, est-ce que vous avez un endettement extérieur, ça dépend de votre croissance potentielle, de plein de mécanismes, de votre capacité à rembourser sur le futur, enfin bref, tout ça est très compliqué, et donc il est très difficile d'isoler la dette publique du reste de l'économie, de la dette privée par exemple, et dire, voilà, si on a un choc macroéconomique mondial, ça ne sera pas seulement la dette publique française qui sera un problème, mais l'ensemble des dettes publiques dans le monde.
François Meunier, est-ce que vous faites partie des économistes très inquiets comme Jean-Claude Trichet qui parle de niveaux d'endettement très dangereux donc à terme?
Bah, Jean-Claude Trichet était à la tête de la BCE lorsqu'il y a eu le coup de frein qui a été un petit peu un coup de patin, un coup de dérapage des économies européennes. Donc effectivement, il est du clan rigoriste. Il y a eu récemment, donc j'en avais parlé en introduction, une intervention qui a fait date, qui était celle de Olivier Blanchard, qui est un économiste respecté, académique, etc.
C'était en janvier dernier.
Il en était président. Il en était le président de l'Association économique américaine. Et lui fait un rappel qui est pas de panique. C'est-à-dire que ça n'est pas, il a été très prudent, vous l'imaginez, mais pas de panique, au sens où ce qui compte, comme on le disait, c'est pas simplement la dette, mais c'est la dette par rapport à la richesse, par rapport au PIB. Si vous ne touchez pas du tout à la dette, c'est-à-dire si vous ne la remboursez pas, la dette se capitalise et donc va croître au rythme du taux d'intérêt. Mais au dénominateur, le PIB, lui, croît au rythme de la croissance économique. Et donc, que se passe-t-il? C'est bien le rapport entre taux d'intérêt et taux de croissance. L'observation simple que fait Blanchard, pour les États-Unis, c'est moins vrai pour l'Europe. L'opération simple qu'il fait, c'est de regarder historiquement, sur très longues périodes, et le taux de croissance, y compris l'inflation, a toujours dépassé le taux d'intérêt. Ce qui veut dire que, au fond, arrêtez-vous, la dette existante va se rembourser d'elle-même. Puis exactement, vous allez pouvoir rouler la dette d'année en année grâce à la croissance économique. Alors, ça n'est pas un appel, effectivement, à dette à tout va, mais c'est au fond quand même un sage rappel que toute dette n'est pas négative. Alors, on peut revenir là-dessus.
Oui, mais on va y revenir et on va même en parler encore tout de suite, puisque vous parliez d'Olivier Blanchard, François Meunier. On va écouter son discours, enfin un extrait du discours auquel vous faisiez référence, discours prononcé devant l'Association économique américaine, donc c'était en janvier dernier.
High public debt is bad. But may not be catastrophic. So it's not as if
une dette publique élevée n'est pas une bonne chose, mais ce n'est peut-être pas si grave que ça. Je ne dis pas qu'il faut plus de dettes, mais je veux dire que s'il y a plus de dettes, ce n'est peut-être pas la fin du monde. Le deuxième point qui, je pense, est le plus important, c'est qu'il ne faut pas s'endetter pour rien. Si vous avez de bonnes raisons de vous endetter, qu'il s'agisse d'investissements publics ou d'augmenter la production dans une économie en récession, vous devriez le faire. Les bénéfices potentiels sont susceptibles de largement dépasser le coût de cette dette. Le dernier point qui est le plus pertinent pour des pays comme l'Italie ou les États-Unis à l'heure actuelle, c'est que si l'on s'inquiète du mauvais équilibre budgétaire et d'arriver à un taux élevé en raison d'un risque de défaut, à mon avis, il ne faut pas une politique d'austérité fiscale. Il faut privilégier d'autres approches. Pour conclure, je ne veux pas que vous reteniez l'idée que la dette est une bonne chose, mais qu'elle n'est peut-être pas une si mauvaise chose non plus.
Voilà, Olivier Blanchard qui, comme le rappelait François Meunier, parlait essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement des États-Unis. Patrice Bobeau, historiquement, est-ce que c'est juste l'analyse que fait Olivier Blanchard, donc de dire que ben, finalement la dette c'est pas si grave tant que les taux d'intérêt sont inférieurs aux taux de croissance?
Alors oui, si la dette qu'on considère, c'est celle qui est couverte par les taux d'intérêt en question. Et par exemple, c'est pas le cas en France. En France, une bonne partie de la dette publique passe sous le radar, ne participe pas à cette évaluation de l'endettement public. Par exemple, une bonne partie de la dette sociale est dans une situation d'urgence climatique. On pourrait même y ajouter la dette écologique. Et ces formes de dette-là ne sont pas comptabilisées. Si on considère la dette que représente pour l'État le coût des retraites à venir des fonctionnaires, par exemple, on double la dette publique. Donc, l'analyse de Blanchard est valable, mais pas forcément pour tous les pays. Deuxième problème, c'est que la dette, et il le dit un petit peu, c'est fondamentalement un phénomène qui est ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui doivent d'un côté et puis ceux qui reçoivent de l'autre. Il y a ce que vous dépensez d'un côté et ce que vous acquérez contre cette dépense de l'autre côté. Et c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. C'est-à-dire que quand votre dette, elle se traduit de manière directe ou indirecte par une augmentation du patrimoine public, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, l'endettement de la France, celle qui s'est développée depuis schématiquement le débat le début des années 80, cet endettement de la France a augmenté sans augmentation parallèle ou comparable du patrimoine public. Et si on en croit les données de Thomas Piketty, c'est même l'inverse.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Patrice Bobeau, parce que ce que dit aussi Olivier Blanchard, c'est que cette dette, elle peut être importante si elle est utile. Donc, à certaines conditions, il faut savoir bien utiliser l'argent emprunté et savoir aussi maîtriser les dépenses publiques. En tout cas, je reviens donc à ce que disait Patrice Bobeau. Il faut bien utiliser l'argent emprunté. Bon, reste à savoir maintenant ce que veut dire bien utiliser, Mathieu Plane.
Voilà, après, ça dépend ce qu'on appelle bien utiliser. C'est pas nouveau. On peut penser que l'argent public doit être bien utilisé, mais la question, elle est sur finalement, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Je pense.
Est-ce que c'est le bon moment d'emprunter?
Le bon moment, bien sûr. C'est le bon moment. C'est-à-dire que quand vous avez des investisseurs qui sont prêts à vous prêter sur 10 ans à des taux qui sont proches de 0%, effectivement, vous avez beaucoup de projets d'investissement qui deviennent rentables. Rentabilité économique, hein, sur des infrastructures, etc. Mais on pourrait parler de rentabilité sociale, rentabilité écologique. Et donc, c'est vrai que cette approche-là est très différente si vous êtes dans un monde avec des taux à 4% pour financer vos dettes ou des taux proches de 0%. Ça veut dire que, effectivement, il y a une demande forte pour des titres publics, et notamment français. Alors, il faut le savoir, d'ailleurs, c'est que les Français, la dette française est plutôt bien placée. Il y a l'Allemagne qui est numéro un, et en fait, dans la zone euro, dans les dettes importantes, la France est juste derrière. Donc, on profite aussi de ça. Et donc, bien sûr, le concept d'investissement et de rentabilité future doit prendre en compte aujourd'hui, est-ce qu'on est durablement avec des taux bas? Est-ce que dit Blanchard, c'est que oui, on sera durablement avec des taux bas. Et donc, si on veut soutenir la transition énergétique, si on veut relancer l'économie, si on veut réduire le chômage et un certain nombre de choses, bien sûr qu'il faut réfléchir différemment et voir la dette comme quelque chose qui peut être aussi un vecteur d'élévation soit des niveaux de vie, soit d'amélioration sociale, soit d'amélioration de la qualité globale de l'air, etc.
Alors on va parler de l'avenir et des implications donc de la dette, ce qu'on peut faire avec cette dette. François Meunier, je voudrais vous entendre sur ce sujet, pas sur l'avenir donc, mais sur ce dont on vient de parler, sur la manière dont la dette peut être utile. Est-ce qu'elle doit être finalement créatrice de valeur, cette dette, pour être comprise aussi par les Français?
Il est assez utile de comparer l'État à une entreprise. Une entreprise a une limite naturelle à son endettement qui est le risque de défaut. Le problème de fond de la dette publique, ou des finances publiques d'ailleurs, c'est que les limites, la possibilité de défaut, c'est au fond une barrière assez élastique. À quel moment ça intervient? Rogoff disait 90%, il y a des États, le Japon c'est beaucoup plus élevé, l'Italie également c'est plus élevé. Donc au fond, c'est là qui est peut-être le danger, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de contrainte comptable forte sur l'État, que lorsqu'il ne peut pas lever des impôts, il peut de façon anodine lever de la dette, eh bien ça peut être un encouragement à l'endettement et aux finances, et surtout à d'une mauvaise dépense publique. Le problème de la facilité de l'endettement, c'est un manque de surveillance, un manque de contrôle, un manque d'opportunité sur la qualité de la dépense publique. Et c'est là que nous sommes. Et il faut observer, regardant la France, qui de plus, parenthèse, se finance très aisément parce qu'elle est un substitut de moins bonne qualité, mais un très bon substitut de la dette allemande libellée en euros, Le problème de la France, c'est qu'elle a toujours eu une très très grande facilité à se financer et elle n'a pas réussi à bâtir des garde-fous internes, des garde-fous institutionnels, de façon à filtrer, à bien surveiller la dépense publique. Non, il n'est pas sûr que nous ayons une très très bonne qualité de dépense publique en France. Le problème est davantage du côté de la dépense que du côté de son financement, que ce soit impôt ou dette.
Rapidement, Mathieu Plane, sur ce que vient de dire François Meunier, est-ce qu'en France, on sait contrôler la manière, est-ce qu'on sait bien contrôler la manière dont est utilisé l'argent emprunté ?
En tout cas, on s'est jamais retrouvé face à une vraie dérive des taux sur les marchés. C'est vrai qu'il y a eu des moments où il y a eu des risques, mais qui étaient propres à l'ensemble de la zone euro. C'est vrai qu'on n'est pas ni dans la situation italienne, bien sûr pas du tout grecque. Donc c'est vrai qu'il y a de la menace qui a toujours plané, c'était de dire attention, si vous faites ça, les marchés vont vous attaquer, les taux vont augmenter. Donc ça veut dire une gestion prudente, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir des plans d'investissement, c'est peut-être le moment d'en profiter. Maintenant, il faut aussi être raisonnable parfois et pas dire qu'on peut tout financer par la dette. Mais attention, ce qu'on a fait surtout en France et qui pose un certain nombre de problèmes, c'est qu'on a eu plutôt des politiques, ce qu'on appelle pro-cycliques, c'est-à-dire que effectivement, on a eu tendance à être plutôt laxiste dans les périodes où ça allait bien. Et par contre, faire beaucoup de rigueur quand ça allait mal. Et donc, c'est là où c'est difficile. C'est que quand vous cherchez à vous désendetter absolument quand ça va mal, alors là, vous avez des conséquences économiques dramatiques. C'est-à-dire que vous avez des récessions, vous avez un marché du travail qui se dégrade, un chômage qui augmente, pouvoir d'achat aussi qui baisse. Et donc, tout ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, la question de la gestion, c'est aussi une gestion de long terme. C'est-à-dire avoir des politiques contracycliques et comprendre qu'on vit sûrement dans un monde où les taux seront durablement bas. Et donc, il faut voir les choses peut-être différemment de ce qu'on pouvait voir encore il y a quelques années.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
Faut-il se désendetter à tout prix ? C'est la question posée dans le grain à moudre ce soir. Nous en parlons avec nos invités, deux économistes, Mathieu Plane et François Meunier, et avec l'historien Patrice Bobeau. Patrice Bobeau, je me tourne vers vous. On parlait tout à l'heure d'un autre aspect important dans cette question qui est la monnaie. Une dette élevée n'est pas forcément un handicap important dans les pays qui peuvent emprunter dans leur propre monnaie. On pense là aux États-Unis, un taux d'endettement de 107% par rapport au PIB. Et puis le Japon, vous le disiez, et François Meunier l'évoquait il y a quelques instants. Le Japon, dont je le rappelle, le taux d'endettement est très élevé, 240% du PIB.
Oui, alors, une autre manière de voir la question de la dette publique, c'est de ne pas regarder le taux d'intérêt. Moi, j'aurais tendance à dire que le taux d'intérêt, c'est une variable sur laquelle on comprend pas grand chose, qui est plus comparative, et ce que disait Mathieu est vraiment important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le taux d'intérêt public est faible, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opportunité dans l'économie privée, en quelque sorte. Et donc, l'État se substitue. C'est un fort signal relatif de dépenses pour l'État. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue monétaire? C'est assez simple, en fait. Une des caractéristiques de l'évolution de la dette non maîtrisée, c'est le raccourcissement des échéances de la dette. C'est-à-dire que lorsque la dette publique d'un État est due à des échéances, à des maturités de plus en plus courtes, de plus en plus brèves, on est vraisemblablement dans une logique de dégradation rapide de la capacité de l'État à soutenir sa dette. C'est ce qu'on a observé en Grèce à partir de 2009, de manière très 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 visible. Et au contraire, qu'est-ce qu'on a vu en France? Et là, du coup, je conteste un peu l'idée que la dette française est mal gérée. Qu'est-ce qu'on a vu en France depuis la Deuxième Guerre mondiale? Au contraire, de manière très très nette, un rallongement persistant de la duration de la dette. Et ce rallongement persistant, ça montre une confiance croissante dans la capacité à long terme de l'État de payer sa dette. Donc si on regarde sur 60 ou 70 ans, je dirais presque que la situation n'a jamais été aussi bonne.
Même avec l'euro comme monnaie?
Tout à fait. L'euro a encore accentué la crédibilité de l'engagement français en termes de remboursement de sa propre dette.
François Meunier, sur cette question.
Ma remarque portait sur la qualité de la dépense, et non pas de la gestion de la dette. On a probablement, il faut le dire, dans les équipes de la direction du Trésor, probablement il est parmi les meilleures équipes au monde en matière de gestion de la dette. Ce qui est l'occasion d'ailleurs de dire que l'État rend un service nécessaire à l'économie, qui est de stabiliser l'épargne et le financement en ayant des taux qui soient à peu près stables. Une façon d'avoir des taux à peu près stables pour les épargnants, c'est d'émettre de la dette publique à très long terme. Il est très imprudent, même si ça coûte moins cher, de s'endetter très très court. Et l'État français, surtout en ce moment, où les taux sont bas, je crois à 10 ans c'est à 0,4, à 30 ans c'est 1,5%, l'État, s'il veut être prudent déjà, et ne pas faire voguer l'économie selon les soubresauts du taux d'intérêt, doit s'endetter extrêmement long et donc garantir aux assureurs-vie, aux ménages qui s'endettent en emprunt d'État, un flux de revenus qui soit constant. Il y a un service d'assurance, en quelque sorte, dans une gestion posée, longue, de la dette. Comme les taux sont courts, c'est l'occasion peut-être de s'endetter, mais en tout cas de s'endetter très long. C'est ce que fait d'ailleurs l'État français qui repousse la duration de sa dette.
Mathieu Plane.
Oui, c'est important de le rappeler ça, hein. C'est-à-dire que effectivement la possibilité de s'endetter à très long terme donne aussi une forme de stabilité aux finances publiques, hein. C'est vrai que quand vous endettez à 30 voire 50 ans, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui ont confiance dans votre capacité à rembourser cette dette. Et d'ailleurs si on regarde, la charge d'intérêt est prévue, doit être de l'ordre de 1,5 point de PIB pour 2019. Si on remonte à l'équivalent, il faut quand même revenir au début des années 80 pour avoir une charge d'intérêt aussi faible. Et au début des années 80, la dette publique était 4 fois moindre, était de 25% du PIB. Donc c'est important de voir qu'effectivement le contexte, on ne peut pas regarder juste la dette en niveau. D'ailleurs en 2007, je regardais, le charge d'intérêt était proche de 3 points du PIB, et pourtant l'économie allait plutôt bien. Donc c'est vrai que la particularité, la singularité de cette crise, en fait qui est une crise aussi, on a parlé des dettes souveraines, en fait c'est traduit par finalement une baisse des charges d'intérêt pour les États. La question qui se pose, c'est est-ce que cette situation est une situation paradoxal ou désormais, est-ce que c'est une situation de long terme dans laquelle on va vivre? Et donc ça change tout sur notre façon de gérer les finances publiques.
Alors justement, Mathieu Plane, qu'est-ce qui pourrait faire déraper cette situation? Est-ce que c'est une hausse des taux d'intérêt?
Alors oui, mais pourquoi? La question, il peut y avoir des hausses de taux d'intérêt qui sont des bonnes hausses de taux d'intérêt. Mmh. On est dans une situation paradoxale qui est quasiment une situation à la japonaise. C'est-à-dire une déflation se traduit par des taux d'intérêt bas, mais parce que vous avez une croissance très faible, très peu d'inflation. C'est-à-dire qu'une remontée des taux d'intérêt peut être aussi la conséquence d'une activité qui repartirait de façon dynamique.
Donc d'une hausse de la croissance.
D'une hausse de la croissance. C'est-à-dire que normalement, à long terme, théoriquement, les taux d'intérêt évoluent comme votre croissance potentielle de long terme. Or, effectivement, là, aujourd'hui, on est plutôt dans des situations quasiment de stagnation séculaire. C'est la fameuse, effectivement, ce qui a été développé récemment autour de la stagnation séculaire. Et donc, si vous êtes durablement dans une situation de charge d'intérêt faible, le meilleur moyen de relancer l'activité, effectivement, c'est de le faire par la dette publique. Parce que seul l'acteur public est en capacité d'aller s'endetter fortement pour relancer des projets d'infrastructure, des projets d'innovation, des projets de transition écologique qui peuvent, effectivement, aussi redresser l'économie et, en plus, avec une efficacité sociale et écologique à long terme.
Patrice Bobo.
On retrouve là encore le problème de la duration de la dette, c'est-à-dire que ce qui va caractériser un État capable de s'endetter à long terme, c'est d'engager des types de dépenses, des types d'investissements qui sont inaccessibles aux acteurs du privé et qui sont porteurs de productivité à long terme. Le remboursement de la dette, si on veut vraiment rembourser la dette, c'est-à-dire si on met de côté les formes diverses de banqueroute, etc., il y a deux manières de rembourser la dette. C'est-à-dire soit faire des bébés, soit faire de la croissance de productivité. Globalement, les pays qui ont remboursé sou pour sou, dollar pour dollar, franc pour franc...
Il n'y en a pas beaucoup.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des pays qui ont combiné une très forte croissance démographique avec une très forte croissance de la productivité.
Les États-Unis,
la Grande-Bretagne au 19e siècle.
Au 19e siècle.
Exactement. Mmh. Voilà. C'est tout à fait spectaculaire. La Grande-Bretagne, c'est le Japon d'aujourd'hui qui, en 60 ans, rembourse sa dette parce qu'il y a une croissance démographique, une croissance économique très, très rapide. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on peut s'endetter à 30 ou 50 ans, on est capable d'investir, l'État est capable d'investir, y compris dans l'immatériel, de l'éducation, mais qui sont des choses qui ont une rentabilité en termes de productivité très élevée, mais à très long terme, donc inaccessible à des acteurs privés.
Et est-ce qu'on sait d'ailleurs, avant de poursuivre notre discussion, est-ce qu'on sait si aujourd'hui il y a des pays qui n'ont pas de dette?
Il y a des pays qui ont... Bon, je crois que la Norvège, avec un fonds souverain très élevé, doit avoir une dette nette négative, c'est-à-dire qu'elle a plus d'actifs financiers que de dettes.
La question des actifs.
Ça, c'est un point important. On parle trop, à mon avis, en termes de dette brute et pas assez en vision patrimoniale. C'est-à-dire, vision patrimoniale, c'est-à-dire que typiquement, on va parler de ce qu'on peut léguer aux générations futures, parce qu'effectivement, la dette, c'est quelque chose de long terme et qui se transmet génération en génération, mais on transmet aussi des actifs en face. Et donc, c'est aussi, quand on regarde la capacité, justement, à gérer les finances publiques, c'est regarder comment cette dette est utilisée. Et effectivement, si vous avez en face une augmentation forte des actifs, alors à ce moment-là, la dette n'est pas un problème aujourd'hui. Et puis, ça prend pas en compte des actifs immatériels, un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler, il y a un besoin de dette, de toute façon. La dette, à la fois en termes d'investissement,
un besoin.
Mais le système financier. Le système financier ne peut pas fonctionner sans dette publique parce que, justement, c'est un gage de stabilité des systèmes financiers parce que, si vous voulez pas prendre risque et vous voulez garantir votre dette, les titres d'État restent quand même ce qui est le plus sécurisé.
En écoutant Mathieu Plane, François Meunier, une question qui... qui vient. Est-ce que ça se rembourse finalement une dette publique? Alors, François Meunier.
Traditionnellement, la dette se roule, c'est-à-dire, c'est de fait vous rembourser la dette, puisqu'elle a une échéance contractuelle à 5 ans, 10 ans, etc. Mais immédiatement, vous levez de l'emprunt pour la rembourser. Donc en fait, c'est une dette qui roule continuellement et qui progresse si le déficit public est trop fort et qui régresse si vos finances publiques sont en excédent. Voilà la dynamique de la dette. Alors, pour revenir sur le sujet des limites de la dette, c'est vrai que, vous disiez, il peut se produire une autre crise de type 2008 dans le futur. Il peut se produire une pandémie, il peut se produire une guerre, il peut se produire des événements systémiques qui obligeraient les États à avoir le type de dépenses publiques qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. Et là, de fait, ça pose un problème, parce que la dette qui était à 40%, qui passe à 100, comme vous le disiez, si elle passe demain à 160 dans tous les pays, c'est vrai qu'on a peut-être un point de rupture, on a peut-être un affolement des épargnants, des taux d'intérêt qui montent subitement, on a peut-être une éviction de l'investissement privé qui fait que, de fait, il y a quand même des limites à l'endettement. Je crois que les paroles de Blanchard ne sont pas une injonction à ouvrir le robinet à tout bas. Il y a des limites. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on connaît mal ces limites. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, dans le système démocratique, dans le système de gestion de l'État, en quelque sorte, des garde-fous, des contrepoids, par lesquels on dise, cette dépense-là est raisonnable, celle-là n'est pas raisonnable, ne va pas rapporter suffisamment au regard de nos objectifs sociaux.
Ouais, ces garde-fous qui
sont... Je reviens là-dessus, c'est ce type de garde-fous, à mon avis, démocratique, à savoir un Parlement fort, qui joue son rôle de contrôle de l'exécutif, qui, à mes yeux, manque un peu en France. C'est quand même... un point assez surprenant, que ce soit que la Cour des comptes, c'est-à-dire une instance judiciaire, pas démocratique, une instance judiciaire, qui sonne le rappel et qui dit attention à la garde, ceci n'est pas une bonne chose. Voilà, on a probablement un des États les plus forts, où l'exécutif est très puissant, et où pourtant on a de façon récurrente des problèmes de finances publiques et d'endettement structurel. Il y a bien quelque chose à revoir dans notre gouvernance globale.
Mathieu Plane.
Il y a beaucoup de choses à dire autour de la question de la dette. C'est vrai que...
Mais est-ce que ça se rembourse, la dette?
Alors,
finalement,
oui, parce qu'on rembourse. C'est-à-dire qu'elle peut augmenter, elle peut diminuer dans le temps. C'est vrai que ça peut être remboursé avec plus de croissance, ou si plus d'inflation, ça peut arriver, notamment. Je crois que, surtout, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, si on restait à ce niveau de dette, est-ce que ça présente un risque? Aujourd'hui, ça serait plutôt non. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'une crise systémique. Et crise systémique, elle épargnerait pas grand monde. Et on voit que la zone euro était très exposée avec la crise des dettes souveraines en 2011-2012. Et finalement, c'est Mario Draghi qui sauve la zone euro en disant « whatever it takes », c'est-à-dire qu'il ferait tout ce qu'il faut pour garantir finalement l'euro et donc les dettes en zone euro. Donc c'est très important.
C'est-à-dire faire marcher la planche à billets.
Planche à billets, en tout cas, mettre en place des instruments de secours pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaut. Qui se réalise et qui se transmette à l'ensemble de la zone euro. Donc ce qui est important de rappeler dans la dette, c'est que le rôle d'une banque centrale est fondamental. C'est-à-dire que quand vous avez la garantie d'une banque centrale qui fera tout pour, de toute façon, sauver votre dette ou financer votre dette, alors à ce moment-là, vous n'avez pas la même exposition. Et c'est pour ça que la zone euro a eu beaucoup de difficultés en 2011-2012, c'est qu'on n'avait pas, justement, ces garde-fous pour dire, en fait, on garantit effectivement la dette, une dette grecque comme une dette allemande, ce qui n'a pas été du tout le cas. Et ce qui pose des questions, c'est sur la... Effectivement, la viabilité de la zone euro, c'est aussi comment institutionnellement vous mettez en place ce type de garde-fou.
Il nous reste 5 minutes, donc je vais vous demander de faire des réponses un tout petit peu plus courtes. À vous entendre, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est presque à un point d'équilibre, compte tenu, encore une fois, des taux d'intérêt qui sont relativement bas. Vous disiez tout à l'heure, Mathieu Plane, que cette situation pourrait durer encore pendant des années.
C'est-à-dire qu'après, si on arrive à un certain niveau de déficit avec cette charge d'intérêt basse, la dette baisse quasiment mécaniquement. c'est-à-dire c'est ce que montre Blanchard, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre croissance est supérieure à votre niveau de taux d'intérêt,
ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais.
Par exemple, pour l'Italie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'Italie aujourd'hui elle a des taux d'intérêt qui sont supérieurs à sa croissance, et donc pour le coup, eux, c'est l'effet de boule de neige inverse.
Et c'est un problème pour l'Europe.
Et c'est un problème aussi pour l'Europe, sachant que la dette publique en Italie est de 130 points de PIB. Donc voilà, le risque est là. Pour la France, on n'est pas du tout dans cette situation. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la trajectoire optimale pour réduire la dette publique? Il faut pas le faire à marche forcée. C'est surtout ça. La croissance est importante, l'inflation c'est important aussi, et donc il y a une stratégie macroéconomique d'ensemble à avoir.
L'austérité, hein, puisque ça,
l'austérité, coûte que coûte, ne fonctionne pas.
On l'a vu en Grèce, hein, notamment, ça a eu l'effet inverse de celui souhaité. Elle a creusé, hein, la dette publique, l'austérité, la réduction de 20% de la dépense publique a entraîné une chute de 25% du PIB et la dette est passée de 126% à 177% du PIB. On a parlé du remboursement, donc de la situation actuelle, et un effacement. Est-ce que ça s'est déjà vu dans l'histoire, Patrice Beaubourg, un effacement de la dette?
Oui, ça s'est déjà vu. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on touche à la dimension sociale de la dette, c'est-à-dire que la dette, c'est un instrument de transaction spatiale et temporelle, ça permet de transférer de la richesse dans le temps, notamment entre générations, et dans l'espace, évidemment. Et lorsque vous annulez la dette, bah vous détruisez une partie du lien social. Ça s'est passé avec la banqueroute des deux tiers, où l'État a remboursé donc en 1797 une partie de sa dette, les deux tiers, avec du papier sans valeur. Et donc ça a été en fait un effacement de la dette. Ça s'est fait avec l'inflation d'après-guerre en Allemagne ou en France, où à peu près 95 à 98% de la valeur de la dette réelle s'est évanouie du fait de l'inflation. Et la conséquence sociale directe, très 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 directe de ça, c'était le terrible appauvrissement des personnes âgées qui avaient accumulé leur richesse sous la forme, en vue de la retraite, sous la forme de rente sur l'État, de la dette de l'État. Et pour donner un ordre de grandeur, ces personnes qui n'avaient comme ressources que les retraites constituées par capitalisation sur la dette de l'État dans les années 50 et 60 avaient un pouvoir d'achat d'environ 50 euros par mois. D'aujourd'hui, voilà, c'est ça que ça donne, c'est-à-dire que ça détruit le tissu social.
Vous citez un autre exemple aussi qui est intéressant, qui concerne la société athénienne. On remonte là à des temps très anciens, au VIe siècle avant notre ère. Qu'est-ce qui s'est passé à Athènes à ce moment-là?
Alors, ça, c'est une histoire compliquée, c'est celle de Cécatéia. Je suis pas spécialiste de la question, loin de là. En fait, on a un système d'esclavage pour dette, c'est-à-dire que un paysan qui cultive une terre et qui dans le cadre de ses relations de patronage, de culture, etc., doit de l'argent à quelqu'un de plus riche que lui et ne peut pas rembourser, eh bien, ce paysan, il devient l'esclave pour le montant de sa propre dette. Mais s'il est esclave, il n'est plus citoyen, et donc la base civique, en fait, de la ville disparaît, de la cité disparaît.
Se restreint, oui, se réduit, et finit par disparaître.
Exactement. Et donc, il y a eu une sorte de lutte sociale, hein, qui a abouti à une réforme, qui a eu deux dimensions essentielles pour simplifier. Une première dimension qui est une redistribution des terres, puisque c'était au cœur du problème, et une deuxième dimension qui est l'interdiction d'esclavage pour dette. Mais il faut bien voir la contrepartie qui va avec ça, qui est la légitimation de l'esclavage marchandise, c'est-à-dire la possibilité de vendre et d'acheter des esclaves sur un marché.
Bon, ça, heureusement, on n'en est plus là. Il nous reste une minute, Mathieu Plane. Aujourd'hui, l'effacement de la dette, est-ce que ce serait possible? On en a entendu parler, hein, au moment de la crise grecque. Certains voulaient effacer une partie de cette dette. Et c'est ce que souhaitent aussi certains à gauche, notamment comme le comité pour l'abolition des dettes dites illégales, dont l'une des membres, d'ailleurs, a publié une tribune il y a quelques jours dans le magazine Politis.
Non, mais ça a été quand même rappelé. C'est-à-dire, l'effacement, le problème, c'est que quelqu'un détient la dette. Si c'est les ménages, par exemple, résidant en France ou les retraités, effectivement, c'est une façon de les appauvrir. Et surtout, ça pose la question du financement ultérieur. C'est-à-dire, il faut faire confiance, en fait. Il faut quand même avoir une confiance, une relation de confiance sur le long terme pour pouvoir justement s'endetter à des taux très bas, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas juste du jour au lendemain décider de plus rembourser parce qu'effectivement, on serait dans une situation difficile. Il y a d'autres façons de faire. Par exemple, d'ailleurs, Blanchard le proposait. C'est dire, par exemple, avoir un objectif d'inflation à 3 ou 4% faciliterait le désendettement, typiquement. Et c'est pas une façon d'effacer la dette. Enfin, c'est plus subtil que ça.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. François Meunier, économiste, professeur associé de finance à l'ENSA et Paritech. Merci d'avoir été au téléphone de Santiago, au Chili, avec nous ce soir. Patrice Beaubourg, merci aussi, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Nanterre, La Défense. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre, Fanny Richer, Virginie Leduot, Jean-Christophe Brianchon, Antoine Dulster, Antoine Tricot et Cyril Marchand. La réalisation ce soir était assurée par Peyré Legras. Prise de son, Alex Dang. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre.